Des poches sous les yeux, l'interview, en partenariat avec la boîte à livres.
Bonsoir Laurent Sexy.
Bonsoir.
On va parler ensemble de votre dernier roman, L'exercice de la médecine, paru aux éditions Flammarion en août 2015. Alors j'espère qu'on va donner envie aux auditeurs de lire ce livre, de vous découvrir s'ils ne vous connaissent pas encore, parce que c'est à mon sens l'un des meilleurs livres de cette année. Alors je suis évidemment pas la seule à le dire, je crois que la critique est quand même assez unanime. Alors L'exercice de la médecine raconte l'histoire d'une famille de médecins juifs de père en fils du début du XXe siècle en Russie, en passant par Berlin, jusqu'à aujourd'hui à Paris, où le dernier représentant de cette tradition professionnelle familiale est une femme, Léna Kotev, cancérologue à Paris. Alors, votre livre s'ouvre sur un premier chapitre absolument saisissant, où votre héroïne reçoit le mari d'une patiente en fin de vie dans son bureau à l'hôpital. Elle doit faire face à la colère, au désespoir de cet homme qui refuse d'admettre l'échéance fatale. Et on comprend alors immédiatement toute l'empathie que porte Léna Kotev à ses patients et à leur entourage, mais aussi surtout son impuissance totale face au drame qu'ils vivent. Ce qu'on ressent, c'est bien le conflit généré chez elle par cette rencontre entre la compassion qu'elle ressent, cette envie bien sûr de tout faire pour les guérir, et puis l'impossibilité d'y parvenir malheureusement bien souvent. Alors un conflit que l'on n'observe pas chez les autres personnages du roman, qui n'existe pas chez le grand-père médecin, chez l'arrière-grand-père médecin, qui ont tous poursuivi leur sacerdoce, si je puis dire, sans faillir, sans douter jamais. Alors pourquoi elle? Pourquoi elle, la probable dernière descendante de cette lignée, pourquoi se trouve-t-elle si mise à mal, si désabusée par l'exercice de la médecine?
Oui, bon, merci pour votre lecture qui est très intéressante. Sur les... on apprend, en tant qu'auteur, on apprend de ses lecteurs, des critiques, élogieuses ou critiques, beaucoup. Et en effet, votre interrogation est très juste. Pourquoi est-ce qu'elle doute alors que Pavel Alexandrovitch, son arrière-grand-père, qui a soigné le gouverneur du Tsar, alors que son grand-père, Mendel, qui était professeur à Berlin, ne doute pas? Peut-être qu'elle est, elle vit à notre époque. Et j'ai l'impression que que notre époque prête au doute. Que celui qui ne doute pas est finalement celui qui est dans l'erreur, que celui qui n'est pas interpellé par son impuissance ou par se trompe, et peut-être que son doute est-il finalement une de ses qualités. Je crois qu'en réalité le doute chez le médecin est une qualité première. Il n'y a rien de pire que les médecins qui ont cette assurance, qui ont cette arrogance, que leur donne peut-être l'expérience. Mais je crois que, en tout cas, c'était ma façon d'exercer. C'était à la fois de reposer ces connaissances sur un socle solide, mais en même temps de ne jamais être trop sûr de soi, et j'ai l'impression que c'est ce qui mène à l'erreur. En ce qui concerne Léna, ce qui l'a fait douter, évidemment, parce que tout en étant médecin, tout en étant cancérologue, c'est également un être humain, c'est finalement le malheur face à elle. Et c'est cette terrible exigence transmise de père en fils dans sa famille, cette exigence de soigner, cette exigence quelque part de faire le bien, cette exigence qui, dans le cas de M. Marquand, son premier patient, lorsque vous ouvrez le livre, va être mise à mal. Et c'est la confrontation entre cette exigence, entre ses espérances, entre le pourquoi elle a fait ce métier, entre sa vocation et finalement l'échec finalement de cette vocation à guérir. Et ce qui l'a fait douter, c'est sans doute ça, c'est finalement sa conscience. Sa conscience et sa conscience morale, qui est le point de tous les Kotev. C'est une exigence morale, c'est quelque chose qui les traverse de génération en génération.
Le destin de cette famille est particulièrement tragique. Vous réussissez à le conter très sobrement, cette histoire de ces personnages. Et alors au travers d'eux, bien sûr, l'histoire terrible, hein, du XXe siècle en Europe, du génocide des Juifs, mais encore avant des pogroms russes, une histoire dans laquelle chacun de ces personnages a cherché à sauver sa famille, à mettre à l'abri sa famille, jusqu'à aujourd'hui où Léna, dans sa relation assez particulière avec son père, cherche elle aussi à le sauvegarder. Hein. Elle redoute sa mort, elle va jusqu'à éviter de prendre l'avion parce qu'elle redoute de ne pas pouvoir être auprès de lui si par malheur il arrive un accident. Alors est-ce à dire qu'on porte, quand on est juif, cette angoisse-là de la mort, quand on est issu d'une famille juive, encore aujourd'hui?
Moi j'ai l'impression, alors c'est très intéressant ce que vous dites. Alors il y a deux choses, c'est que vous avez pointé quelque chose qui est intéressant, c'est que dans la famille Kotev, on essayait de sauver les enfants. Et donc, en effet, Pavel Alexandrovitch envoie Mendel à Berlin, qui envoie Tobias en France. Et arrivé à l'ENA, on essaie de sauver les parents. Ce qui, en quelque sorte, est un progrès
oui,
peut-être.
Oui.
Mais pour répondre à votre question, moi j'ai l'impression, alors je me trompe peut-être, que c'est une angoisse qui est partagée par tous, par tous les êtres humains sur cette terre, le fait de, non pas d'avoir l'angoisse de la mort, mais d'avoir... le souci de préserver les siens, sauf les barbares de tous les temps. Et c'est peut-être ce qui fait l'humanité. Ce qui fait l'humanité avec un grand H, ce qui fait l'être humain, c'est finalement de n'être tranquille que lorsque les siens sont en sécurité. Que lorsque l'avenir ou la vie des siens est préservée. C'est penser qu'il y a quelque chose de plus important que soi, qui est la génération qui vous succède. Et qui est, dans le cas des Kotev, non seulement la génération qui succède, mais ce devoir de guérir, ce devoir de faire le bien, ce devoir d'être finalement dans une sorte de prêtrise, de sacré. La médecine, c'est de prolonger la vie des vivants. La littérature, c'est de ressusciter les morts. Et c'est ce devoir-là. Et moi, j'ai l'impression, alors, est-ce que c'est quelque chose de... Non, je ne crois pas que ce soit quelque chose de rattaché à mes origines. Simplement, peut-être qu'il y a chez cette famille-là la connaissance du tragique. Parce que l'expérience du tragique, ce que je crois aussi, c'est que l'expérience du tragique, nous l'avons tous. Voilà, il n'y a pas le malheur, comme le dit un de mes personnages, c'est la chose, heureusement, la plus répandue également sur cette terre. Mais il y a le fait de savoir, et le fait que je sois médecin finalement a pu irriguer ce livre, la connaissance du tragique à venir chez Léna et chez la famille Kotev fait finalement de leur existence quelque chose de ils pensent que c'est un bien, mais comme tous à mon sens, le bien le plus précieux. Et finalement, voilà, c'est ce qui différencie...
Mais qui l'angoisse aussi quand même, terriblement.
Oui, alors évidemment, il y a une importante névrose familiale sans doute au sujet-là, mais qui l'angoisse parce que la perte du bonheur, la perte des êtres chers, oui, c'est quelque chose qui l'obsède parce qu'en réalité, pèse sur elle, vous avez raison, quelque chose de très lourd, qui est à la fois le tragique du passé, mais la splendeur du passé, qui est à la fois son devoir... d'être médecin, et qui est aussi sous ses échecs sentimentaux, ses échecs amoureux, le fait que, au stade du début du livre, elle ne peut pas, elle, transmettre, elle ne peut pas, elle, donner la vie. Et donc, il y a une forme d'angoisse, mais moi, je ne vois pas de médecin, en tout cas, ou d'homme qui traverserait la vie sans une forme d'angoisse. Alors, elle peut être plus... Je crois qu'elle est éminemment répartie, simplement, chacun se débrouille avec. Soit dans l'hyperactivité, soit dans le sport, dans l'écriture pour moi, et donc c'est quelque chose que nous avons tous, nous partageons. Elle, c'est aussi une héroïne de roman.
Oui.
Donc peut-être qu'elle a, son angoisse est peut-être plus forte.
Excusez-moi, je vous coupe, mais peut-être également parce que c'est une femme, parce que enfin le grand-père, l'arrière-grand-père ont vécu cette peur, hein, puisque justement, enfin encore une fois, obligés de vraiment mettre leurs enfants à l'abri. Pour autant, dans votre écriture, on la sent pas si prégnante que lorsqu'elle concerne Léna.
Ah oui, tout à fait. Alors, pas si présente du tout, en effet, parce qu'ils sont dans l'action. Parce que Pavel Alexandrovitch allant soigner le gouverneur du Tsar avant de subir peut-être des pogroms, ou la violence des pogroms, ou la menace, ou Mendel, professeur à Berlin, en effet, ils sont dans l'action. Et peut-être qu'ils parviennent à résoudre cette angoisse-là dans la vie. Elle l'est beaucoup moins. Alors peut-être qu'il y a... peut-être qu'il y a beaucoup de moi dans l'ENA.
Dans l'ENA, oui.
Et alors qu'une porte s'ouvre, c'est un peu les conséquences directes, mais nous sommes à la radio là. Ce sont des petits accidents de la vie là qu'on vit actuellement, mais Léna a l'habitude des grands accidents de la vie, des grandes tragédies qui vous submergent et qui vous emporte.
Alors votre roman traverse le siècle et dans sa forme vous nous faites traverser le siècle aussi. Vous avez choisi d'intercaler les chapitres qui traitent du présent avec ceux qui traitent de l'histoire passée. En clair, un chapitre 2015, un chapitre 1904, à nouveau 2015, ainsi de suite. Alors, c'est pas forcément la forme la plus simple pour conquérir le lecteur, qui est obligé à un constant va-et-vient. Alors, qui plus est, les chapitres sont relativement courts. Du coup, vous avez pris le risque qu'on ne puisse pas s'attacher vraiment au personnage, qu'on n'ait pas le temps de s'y attacher. Alors, tout votre talent, là, c'est malgré cette contrainte que vous imposez délibérément au lecteur, c'est de parvenir à unifier cette famille. Alors, de façon un peu surnaturelle, on devine le personnage de Léna quand il s'agit de la narration sur ses ancêtres. Puis, alors, bien sûr, là, évidemment, c'est plus joli, plus logique, le reste de ses ancêtres dans sa vie contemporaine. Alors, pourquoi ce choix de va-et-vient
Moi, j'ai l'impression que c'est tout à fait naturel. Je sais pas, au final, j'ai l'impression, comme vous le disiez, qu'on s'attache au personnage.
Ça fonctionne très très bien,
j'ai l'impression que le passé est présent dans nos vies. C'est-à-dire que notre mémoire arrive, débarque et nous ramène au passé. Ce mouvement-là est pour moi naturel. Alors c'est vrai que dans mes précédents romans, Les derniers jours de Stefan Zweig ou Le cas Edouard Einstein, il y avait une sorte de balancement qui était peut-être qui était un peu différent, mais à travers simplement le souvenir. Là, on est à la fois dans la tête, dans l'esprit d'un médecin aujourd'hui, avec Léna, et puis, en effet, il y a ce balancement avec le passé où on est à nouveau dans la tête et dans l'esprit d'un médecin au début du siècle, et d'un médecin dans les années 50 et d'un médecin dans les années 40. Et c'est vrai qu'il y a, ce sont des aventures que l'on vit. Et j'aime l'idée que l'on passe de tout en restant, que l'on passe de l'un à l'autre en réalité. Donc le principe est venu naturellement et j'aime ne pas tout donner d'un personnage. Finalement, ménager une sorte de suspense. C'est pas un des moyens, parce que pour moi, là c'est fait naturellement de voir et de raconter l'histoire de Léna aujourd'hui, et d'en parallèle raconter l'histoire de Pavel Alexandrovitch il y a un siècle. Et je crois qu'il y a finalement bien des similitudes et bien des oppositions qui permettent de comprendre, d'éclairer le personnage de Léna aujourd'hui, qui est le personnage central de ce livre, par l'histoire de ses ancêtres et de ses aïeux et de son grand-père et son père.
Thérapeute.
jusqu'au thérapeute.
Je vous emmène volontairement sur le terme, puisque vous apportez une explication dans votre livre. Je vais vous laisser nous la livrer.
Oui, alors c'est assez drôle, c'est que lorsque vous ouvrez le dictionnaire Robert, il y a cette chose un peu surprenante, qui veut dire à la fois, qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui est assez amusante. En numéro 2 seulement, les thérapeutes, ce sont les soignants, les médecins. Et le véritable sens, thérapeute, quand vous ouvrez le dictionnaire Robert ou un autre dictionnaire, ça vient de thérapeuyen, et les thérapeutes, c'était à l'origine une tribu juive d'Alexandrie, versée dans la science médicinale et consacrée au fait de servir Dieu. La famille de Léna imagine descendre de cette tribu-là, des thérapeutes, où l'on est médecin finalement de génération en génération, comme une espèce de vocation ultime et définitive.
Alors je ne l'ai pas précisé en début d'entretien, mais vous en avez parlé, vous êtes écrivain mais également médecin. Alors c'était ça, assez rare en France, finalement on aime bien à tort, quand on vous lit, opposer la science et la littérature. Vous n'exercez plus du tout aujourd'hui ce métier?
Pour écrire l'exercice de la médecine, ce roman-là, j'ai arrêté d'exercer la médecine, mais je reprendrai sans doute très prochainement.
D'accord.
Parce qu'il y a cette nécessité de balancement, comme entre les chapitres du livre, de balancer entre la vie réelle Et puis la fiction. Donc j'ai besoin de passer d'un monde à l'autre. Et le monde médical est un monde en soi, un monde exceptionnel, un monde avec son langage, avec sa langue qui n'a rien d'universel. Et il y a ce monde littéraire qui lui aussi est un monde en soi, avec ses personnages, avec cette fiction, avec ce langage différent du langage de la médecine. Et il y a une sorte de point commun où je me retrouve finalement, c'est dans l'empathie que l'on peut ou que l'on doit avoir dans l'exercice de la médecine avec ses patients, et puis dans mes romans avec mes personnages.
Mais écoutez, merci beaucoup Laurence Seixic pour cet entretien autour de l'exercice de la médecine paru aux éditions Flammarion tout récemment. Encore une fois, un des meilleurs romans que j'ai pu lire cette année.
Merci mille fois.
C'était l'interview des poches sous les yeux en partenariat avec la boîte à livres. Retrouvez cette interview sur radiobeton.com, despochessousleyeux.fr ou encore la page Facebook des poches sous les yeux. Oh,